Bienvenue à tous, bienvenue à Back From Build. Donc aujourd'hui, nous allons parler des médias. Donc BrainSonic est présent, un partenaire privilégié Microsoft sur les médias justement. Donc je me présente Benjamin Moulès, je suis architecte Azure sur les sujets médias. Et donc Julien.
Julien, merci. Merci Benjamin de nous recevoir. Donc Julien Fauvel, je suis le responsable au sein de BrainSonic d'une division qui s'appelle Plateforme.
D'accord.
Voilà.
Et Xavier Tessier, donc BrainSonic. Moi, je suis directeur de projet sur les plateformes au sein de BrainSonic.
Ok, parfait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être commencer déjà par voir un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, vos métiers, et puis après rentrer dans le vif du sujet avec qu'est-ce que vous avez retiré de cette build cette année, et donc les grandes nouveautés techniques.
Absolument. Alors, BrainSonic est une agence digitale qui a aussi un rôle d'éditeur logiciel. Nous livrons des solutions logicielles en SaaS de gestion d'assets, on parle de Digital Asset Management ou d'OVP, Online Video Platform. Nous avons effectué en 2012 un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 120 employés répartis entre Paris et Lyon. Et nous avons des partenaires très importants, internationaux, comme Akamai C-Network sur les sujets de diffusion.
CDN, ouais.
Absolument, CDN. LinkedIn sur les réseaux sociaux, mais aussi Microsoft, très important, sur l'hébergement de nos solutions applicatives.
Parfait.
Donc, BrainSonic travaille les assets vidéo audio depuis environ 10 ans. On a d'abord développé des outils à des fins d'usage internes pour fluidifier notre workflow, échanger avec nos clients. Puis finalement, on a fini par porter ces outils sur des infrastructures cloud et les proposer à nos clients pour leur propre utilisation, leur propre besoin.
D'accord.
Donc en fait, nous utilisons les technologies Azure pour un certain nombre de nos solutions. Donc des solutions qui vont être des solutions de chat en temps réel, par exemple, que nous utilisons dans le cadre des tech devs pour Microsoft. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Mm-hmm. Donc dans ce cadre, nous allons utiliser les offres SaaS. En fait, c'est une offre SaaS que l'on propose basée sur les technologies Azure. Donc on va utiliser les cloud apps, les web roles, les services SQL Azure et autres.
Parfait.
Donc ça, c'est un premier exemple en fait d'utilisation des technologies Azure. Donc nous allons utiliser aussi ces technologies dans le cadre d'Usina Blog que nous basons en fait sur WordPress.
D'accord.
Donc dans ce cadre, on réalise des Usina Blog pour Microsoft.
Notamment sur les produits Windows Phone, Office on Air, sur TechNet. Qui sont sur des environnements WordPress et Azure Website.
Parfait.
Et nous avons aussi développé en fait une solution produit basée sur WordPress qui s'appelle Content Hub, qui sert à agréger en fait du contenu social et inciter les salariés d'une société ou des utilisateurs à partager en fait ces contenus-là.
D'accord. Avec un système de ranking.
C'est ça.
D'accord.
Donc un troisième exemple où on va utiliser les technologies Azure en utilisant Symfony 2.
Oui.
Donc on a réalisé un certain nombre d'applications basées sur Symfony 2, mais hébergées sur
PHP,
Azure.
Ouais.
C'est ça,
ouais.
Le framework PHP. Et un dernier exemple d'utilisation.
Donc sur les sujets Symfony 2 sur Azure, bon, c'est important, c'est un travail très important qui a été effectué par BrainSonic. Nous fonctionnons aujourd'hui soit sur des architectures LAMP, soit sur du web roll.
Donc soit en mode machine virtuelle, virtualisation, voilà. Soit en cloud app avec un web roll.
C'est ça.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les auditeurs, on travaille pas mal sur les problématiques Symfony ensemble, puisque en fait, vous avez une vraie expertise sur ce métier-là.
Absolument.
Et donc, vous intervenez régulièrement dans des conférences. Donc il y a eu le Symfony Live, je crois, il y a eu les Tech Days également.
Symfony Live, les Tech Days, où on a fait une démonstration sur des capacités de transfert ou de multi-transfert, de parallèle transfert vers du Blob Storage en utilisant les API, web services. Et nous intervenons à Lyon prochainement, toujours sur le sujet d'intégration Symfony 2 sur Azure, au mois de juin.
23-24 juin.
23-24 juin, voilà, c'est ça.
Ouais, le PHP Tour.
Le PHP Tour.
Je m'occupe du PHP aussi.
Donc, et je reprends un tout petit peu le point précédent, un gros travail donc sur Symfony 2 et environnement PHP porté sur Azure avec un mix applicatif, architecture, IaaS, donc infrastructure à service proposée par Azure, et PaaS, ou Platform as a Service, où là finalement on va s'appuyer, on va délester à Microsoft et aux environnements cloud le soin de faire la montée en charge applicative et de donc couvrir l'ensemble des services dont on a besoin. Okay. Une des particularités, c'est aussi d'assembler des éléments comme Redis ou du Varnish, d'associer en fait à la solution des solutions type Redis ou Varnish ou encore Azure.
Sur quel type de problématique exactement? Enfin, pour cacher quoi en l'occurrence?
Alors, dans le cas de Varnish, bon, tout le monde connaît, hein, c'est plutôt des pages précalculées qu'on va pouvoir livrer immédiatement sans avoir de faire de la rendition du côté d'Apache.
D'accord.
et sur du Redis ou du même cache, Cache App Fabric ou encore Azure Cache Services.
Il y a deux, trois solutions de cache qui gravitent, ouais.
Voilà, qui gravitent. Celle-ci est probablement la plus intéressante à moyen terme, Azure Cache Service, sachant que là aussi, on va pouvoir s'appuyer directement en PaaS sur la gestion de la montée en charge par Microsoft.
D'accord.
Et donc, l'objectif est, pourquoi on utilise ces outils? C'est plus retour pour partager des états mémoire entre plusieurs serveurs, plusieurs applications. Donc, on l'a vu ensemble, hein, une expérience assez riche au niveau PHP et Symfony. Et puis, je les diffuse à l'écran. Un élément, des outils d'asset management, soit de Cloud Media Drive pour L'Oréal Paris.
Oui.
La mise en œuvre pour Groupama, encore un exemple de solution de OVP, Online Video Platform, toujours basée sur l'asset management.
Et tous les assets, que ce soit la vidéo, les photos, les documents, etc.
D'accord. Et
par contre, on a une autre solution qui ne gère que la vidéo.
Ouais.
Donc, nous, qu'on appelle dans notre jargon Cloud Video Center.
Qui était une plateforme vidéo vraiment dédiée aux besoins d'entreprise, hein, qui va se différencier de ce fait des plateformes vidéo grand public type YouTube, Dailymotion et autres.
Je vois, tout à fait.
Voilà. Alors, si on fait un tout petit focus sur nos différents outils, hein, je reprends. En fait, nous avons BrainSync Media Center, qui est une solution d'asset management relativement large, sur laquelle on peut faire des développements frontaux, web, custom, en fonction des besoins métiers du client. Puis nous avons deux outils, solutions packagées. Cloud Media Drive, qui est un outil de brand content management ou de media workflow, hein, gestion de workflow média, et Cloud Video Center, comme le disait Xavier, qui permet de faire de la gestion vidéo pour l'entreprise.
Associé à un front ou pas.
Ok.
Donc, vraiment, en une minute, je rappelle finalement quelles sont les principales fonctions qu'on retrouve sur un outil d'asset management. Eh bien, il y a évidemment la fonction d'ingest,
donc récupération.
Des assets, des médias, alors soit vidéo, soit photo, etc., avant transformation, conversion dans des formats secondaires. La capacité à centraliser cette gestion et offrir une interface relativement ergonomique pour une gestion quotidienne assez simple pour les administrateurs de contenu, avoir un outil, on va dire une fonction globalement de contrôle de cette diffusion. Alors derrière, ça appelle plein de mécaniques chez nous, dynamique URL, des mécaniques qui vont être portées jusque sur les edge servers, c'est-à-dire les serveurs du CDN, pour avoir un traitement local proche de l'utilisateur extrêmement rapide. D'accord. Et qui va permettre de déterminer si oui ou non je livre un contenu sur une zone géographique ou en fonction de sensibilité, par exemple, à l'image. J'ai en tête l'exemple des égéries L'Oréal. Avec l'épaule dénudée, on qualifie le média de sensible, on va dire, et pour proposer un contenu alternatif automatiquement sur certains pays du monde.
Okay.
Et l'ensemble est évidemment administrable.
Forcément autorisé, en l'occurrence.
Ou c'est pas forcément autorisé. Voilà. Ou en fait, la représentation nécessite quelques adaptations.
Tout à fait.
Nous avons aussi des notions contractuelles sur ces médias-là.
Bien sûr.
Où, par exemple, une égérie, à partir d'une certaine date, n'est plus autorisée à diffuser son image.
Donc, le contenu potentiellement peut être valide que sur une région donnée.
Ou un laps de temps donné.
Un laps de temps donné.
C'est ça.
OK.
Voilà. Donc, assurer la gestion de... quatrième point, on peut le voir à l'écran peut-être, la gestion des différents canaux de diffusion. Hein, parce qu'on peut être, en fait, on va avoir des chaînes par marché, par langue. On peut envisager comme un canal de diffusion les environnements sociaux ou des applications sur smartphone ou tablette.
Okay.
Avoir des lecteurs intégrant des features, des fonctionnalités avancées, comme des couches d'interactivité audio sur un contenu audiovisuel. On va permettre à l'utilisateur, y compris sur sa tablette, de choisir quel élément il souhaite lancer, d'aller à rechercher une information spécifique sur un site qui va être proposée à ce moment-là, ou une vidéo complémentaire qui va davantage aborder un sujet en particulier. Et enfin, les deux dernières fonctions sont la centralisation, en fin de compte, dans un référentiel unique de l'ensemble des statistiques de diffusion, mm-hmm. que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des frontaux web ou sur des environnements applicatifs, smartphones ou autres. Et en dernière fonction principale d'un outil d'asset management, nous retrouvons cette notion d'archivage et de conservation de cette valeur qui a été créée à l'occasion de la production de ces assets, ces vidéos. Tout ça s'appuie sur une architecture relativement complexe. Je ne vais pas la détailler aujourd'hui. Là, j'ai apporté un petit schéma avec nous pour montrer ce que ça représentait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on le voit par exemple là, sur la partie de droite, nos serveurs applicatifs sont positionnés quelque part dans le monde, dans des data centers. Ce qui va nous intéresser sur Azure, et notamment avec les dernières annonces, on va le voir un peu plus loin, de la build, c'est le déploiement de ces environnements applicatifs dans différentes régions du monde, et notamment des régions du monde où il peut sembler être un peu compliqué de s'installer quand vous pilotez ça depuis la France, comme le Japon ou la Chine.
Voilà. Après, ce qu'on voit aussi sur cette architecture de mémoire, c'est que quand même que vous avez une architecture assez mixte et hybride, dans le sens où vous utilisez aussi bien des briques de machines virtuelles, qu'elles soient Windows ou Linux d'un côté, et d'un autre côté des briques applicatives PaaS avec des services comme pour la gestion des médias ou le stockage.
Exactement. On est vraiment sur un mix à la fois. Pardon ?
Ou l'encodage.
Exactement.
D'accord.
On est à la fois sur un mix technologique. D'ailleurs, j'ai listé pour chacun puisse suivre qu'est-ce que nous utilisons principalement comme technologie sur nos environnements d'âme. Du Linux Server ou du Windows Server. Donc, on est sur de l'Apache, soit sur du .NET, un mélange PHP Symfony lorsqu'on travaille sur des technologies libres, du monde du libre, ou du PaaS SQL Azure, notamment, qui nous permet des montées en charge assez importantes, en particulier avec les dernières propositions Premium, P1, P2. Alors, ça, c'est un petit peu technique ou commercial, je dirais, comme propos, mais des capacités nettement supérieures à ce que nous avions jusqu'à maintenant et qui nous intéressent complètement. En fait, qui permet de nous décharger de la problématique de gestion de la montée en charge sur des environnements.
Voilà. Parfait.
Donc, dans les autres technologies utilisées, des solutions d'encodage comme Expression Encoder ou FFmpeg, de l'Office pour la transformation de Microsoft Office.
Et de l'Azure Media Encoder.
Et de l'Azure Media Encoder. En fait, on va coupler là aussi.
D'accord.
Alors, systématiquement, globalement, nos outils, nos solutions sont hébergées en IaaS aujourd'hui.
D'accord.
Mais elles ont pour vocation d'être progressivement basculées sur du PaaS. Et ça, c'est un des points essentiels de l'offre Microsoft Azure et qui nous a beaucoup intéressés tout de suite. C'est à la fois cette notion de performance, d'accompagnement technologique, de support, mais aussi la capacité à produire ces infrastructures hybrides. C'est-à-dire avoir, par exemple, un état transitoire qui va mêler du IaaS, donc infrastructure as a service, avec du PaaS, et pour progressivement passer, idéalement, la totalité de nos environnements en PaaS.
OK.
Alors, à l'occasion de la build.
Alors, quoi de neuf ?
Vas-y. Je te laisse continuer.
Nous avons aucun problème. Un petit tips. Moi, je suis personnellement John Dusher.
John.
Et le blog, blog de John, qui nous donne beaucoup d'informations sur les dernières releases. Et j'invite tout le monde à regarder. Donc là, c'est blog.johndusher.com.
En particulier au NAB. Donc ça a suivi vraiment Build à aller à 2-3 jours près. Ils ont fait quelques annonces intéressantes.
Annonces au NAB. Donc là, c'est celle que j'affiche. Qu'est-ce que nous avons en fait décidé d'intégrer tout de suite en termes de nouveautés proposées à l'occasion de la build ? J'ai pris ta place.
Non, vas-y.
Premièrement, la capacité à se déployer au Japon.
Oui.
Donc, à avoir, si on reprend, si on a en mémoire notre schéma applicatif précédent, avoir un certain nombre de serveurs qui vont pouvoir être instanciés directement sur un cloud situé au Japon ou en Chine. Et la nouveauté était donc deux data centers au Japon. Je me permets de montrer un petit état des différents points de présence Microsoft Azure dans le monde. Et on voit sous forme de petites pastilles rouges. Alors là, j'étais un peu vite sur mon animation. Je reviens en arrière. Voilà. les différents points de présence Microsoft Azure en termes de data center. Et là, il manque quelques points, notamment ceux de la Chine et du Japon que je n'ai pas encore mis à jour. Ensuite, donc, vous l'avez compris, hein, c'est une architecture applicative dont on va pouvoir porter une partie ou tout ou partie de cette architecture dans le centre d'hébergement de données cloud qui nous intéresse.
Près de vos utilisateurs.
Et quelque part, le plus proche possible des utilisateurs. Donc on va là aussi être capable de construire un système mixte où on va utiliser une part, on va porter une part de notre applicatif, par exemple l'encodage de manière centralisée en Europe ou aux États-Unis, et mettre en place des portes d'entrée, quelque part, des données dans les différents data centers au plus proche des utilisateurs.
Claire.
Des news du stockage.
Ce qui nous intéresse aussi, en fait, c'est le Blob Storage, donc qui est disponible sur Azure, donc ce qui nous donne la possibilité d'avoir un stockage qui est quasiment illimité.
D'accord.
Donc qui est sécurisé surtout, qui est fiable.
Redondé d'ailleurs.
Oui, parce que redondé.
De centre d'hébergement à centre d'hébergement ou d'un continent à l'autre.
Avec la possibilité même de lire en situation de failover sur un autre continent.
Oui.
Et donc on va s'en servir aussi pour tout ce qui est historisation et archivage des contenus.
D'accord.
Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir une solution globale de stockage à proposer
quelque
à nos clients.
Tous vos assets sont stockés dans le Blob Storage au final.
Et c'est surtout sécurisant.
Ouais. Ok.
Donc, on en parlait tout à l'heure, à l'occasion de la build, il y a eu quelques annonces majeures
sur le stockage.
Notamment, je pense que l'annonce la plus importante, une baisse de à peu près 60% sur les éléments les plus importants, les coûts de stockage Azure. Ce qui, en fait, nous renforce dans l'idée d'utiliser du Blob Storage massivement pour stocker les éléments de nos clients, les assets de nos clients. Mais aussi, en point complémentaire, on peut se remémorer la démonstration que nous avons faite à l'occasion des Tech Days en 2013, où en fait nous avons produit, à l'occasion de laquelle nous avons produit un POC, un proof of concept, montrant notre capacité à écrire en parallèle transfert, donc à effectuer plusieurs transferts de fichiers en parallèle depuis un poste avec la bande passante nécessaire.
Sur de l'HTTP, donc.
Sur de l'HTTP, en blob, directement sur du Blob Storage, à plus de 500 mégabits par seconde.
Belle performance.
C'est une belle performance. Je pense que c'était dans le cadre d'un POC, donc je pense qu'on peut aller plus loin encore en termes de capacité.
En particulier avec des technos comme GreenButton, des choses comme ça.
Pourquoi pas, en intégrant une technologie comme GreenButton. On va regarder ça de près.
J'espère bien.
et puis, en tout cas, c'est surtout pour... ce POC avait surtout pour vocation de montrer à nos clients qu'on pouvait les accompagner, y compris sur une problématique un peu complexe, d'accélération de l'upload, pourquoi pas de signature. On va créer des fichiers références qui vont permettre des checksums, qui nous permettent de vérifier si le fichier d'origine a bien été intégré sur les plateformes de destination, ou encore d'autres processus de vérification, par exemple une signature de l'ensemble du fichier nous permettant de vérifier que c'est exactement le même.
C'est-à-dire à la fois qui
avait été uploadé
entre avant et après.
C'est ça.
Ouais, c'est clair.
Comparer deux états.
Très important pour les studios. Norman notamment.
Ça peut être important pour les studios, ça peut être important en fait pour toute aussi publication officielle. Nous avons parmi nos clients le ministère de l'Agriculture. Celui-ci a besoin de pouvoir garantir que les vidéos qu'il a produites et donc qui sont chez lui et qui vont être signées sont bien celles qui vont être arrivées et sont conformes et celles qui vont être traitées par notre application. Voilà.
Ok.
Et enfin, donc, les nouvelles du MAMS, Microsoft Azure Media Services, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Donc, le MAMS, ce n'est pas mes mamans. c'est le service PaaS, finalement, proposé par Microsoft sur Azure de traitement des médias, notamment de l'encodage. Donc, dans nos solutions, nous avons des gros besoins d'ingest, vous l'avez compris, d'insertion de données, de conversion de ces données. Il faut préparer la diffusion des vidéos sur les différents devices, sur les différents environnements.
Et la conversion de tous les médias en général.
Et la conversion de tous les médias. Donc là, c'est pour les autres médias, c'est de l'audio, des images qui vont être déclinées en différentes tailles,
des documents dont on va
convertir
tout à
en PDF.
Avec Office.
Avec des composants Office, exactement.
Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on va encore mixer nos propres technologies qui sont customisées BrainSonic quelque part, où on va avoir nos outils de traitement, par exemple pour les photos ou pour les documents Microsoft qu'on va convertir.
Bien sûr.
À l'aide des technologies Microsoft, mais avec nos propres services. Et on va pouvoir le mixer en fait avec des services d'encodage pour la vidéo qui sont propres à Azure, là, pour le coup.
Ok. Donc,
voilà. Et donc, de la dernière build, nous avons d'ores et déjà intégré la capacité à encoder dynamiquement. Donc là, c'est un petit peu technique encore une fois. Imaginons un système où, en fait, on va précalculer les vidéos au format MP4 dans différentes dimensions. D'accord.
Ouais.
Mais on va pas forcément précalculer et donc stocker, ce qui va nous faire une économie, l'ensemble des renditions nécessaires, ou du moins des protocoles. Donc, par exemple, pour le HLS ou.
Transmux.
Donc, on va faire un transmuxing.
Voilà.
Et ce transmuxing peut être réalisé à la volée sur Azure, ce qui nous intéresse grandement, puisque ça nous évite justement de précalculer, donc de stocker tous ces fichiers.
Donc, en gros, si je comprends bien, vous stockez 6 débits différents du même asset, par exemple.
Par exemple.
Et puis, en fait, vous utilisez l'origine Azure en MP4.
Oui, oui.
Et l'origine Azure, elle va dynamiquement générer les HLS pour Apple ou Android.
Oui.
Enfin, je pense que tu vas le dire.
Sur l'ensemble des devices nécessaires.
Le smooth, etc., etc. MTech Dash et compagnie.
Voilà. Et jusqu'à maintenant, on avait une difficulté, c'est que aujourd'hui sur Azure, on pouvait pas faire du transcoding live à la volée, donc au format HLS V3, qui est en fait le format le plus utilisé aujourd'hui, le plus déployé dans le monde.
Et maintenant,
c'était pas le cas jusqu'à la build, donc qui était.
Ils l'ont annoncé au NAB, je crois.
Et c'était
au NAB.
Ils ont fait
l'annonce.
Pardon.
Transmux,
pas
du transcoding.
Non, pas transcoding, mais donc transmuxing à la volée en HLS V3,
ouais,
y compris HLS V3, ce qui était très important.
Super nouvelle.
Ça nous permet de l'intégrer tout de suite et de le proposer à nos clients, et donc de réduire leur coût de stockage tout en augmentant leur capacité à diffuser sur n'importe quel type de device. Voilà,
d'appareil.
Et prochainement, ce que nous allons intégrer demain, donc là, c'est un peu le schéma que nous voyons à l'écran, c'est la possibilité toujours à la volée, donc de faire un traitement dynamique, soit d'application de DRM sur des technologies Microsoft Play Ready, Digital Right Management, la gestion des droits d'auteur quelque part directement inclus dans mon fichier
dans l'asset
et puis de l'encryption pour protéger du HLS en AES 128
et c'est aussi sur le smooth, ils le font aussi
et sur du smooth streaming, tout à fait.
Je crois que c'est de l'AES 128 derrière
dans les deux cas, c'est de l'AES 128,
c'est ça, hein.
Ouais, voilà. Et donc s'appuyant, parce que lorsqu'on fait de l'encodage, on a besoin d'un serveur de diffusion de clés, et donc s'appuyant, parce que là aussi on peut être confronté à des problématiques de volume, s'appuyant donc sur les services MAMS,
MAMS. Dazzle Media Services. Waouh.
On s'en sort. Voilà. Et puis je pense que pour finir, ça c'est plus le partage d'une expérience interne tout à fait récente, puisque hier 12 mai, nous avons, Microsoft a annoncé la release au TechEd, aux États-Unis.
Oui.
De la mise à disposition, quand on parle de release, là, c'est mise à disposition en IaaS, donc en infrastructure as a service, de nouvelles machines extrêmement puissantes, appelées autrement A8 ou A9. Pour vous donner une idée, c'est 16 cœurs de calcul, c'est plus de 128 gigas de mémoire vive. Donc c'est de la belle capacité, et avec des processeurs qui montent en fréquence, ce qui était très important pour nous. Là aussi, si ma mémoire est exacte, à 2.8 ou 3.2 gigahertz par unité. Cette notion de montée en puissance, ça nous a permis de faire un test simple. On a pris une vidéo de ski, donc typique avec de la neige et des éléments très compliqués à traiter, en HD qui fait 3 minutes 40. C'est une source HD 1920x1080. Et puis on l'a encodé avec nos anciens encodeurs, cette fois-ci IaaS 4 cœurs classiques, qu'on appelle des A3. Ça prend 10 minutes pour faire en simple passe, une seule passe, avec un 4 cœurs, donc 10 minutes 26 secondes pour faire une rendition 1080p MP4. Si on part sur une A8 ou A9 à 16 cœurs, on va avoir, donc 16 cœurs, c'est la capacité globale de la machine. Si on consacre 4 de ces 16 cœurs, c'est un peu compliqué, mais une partie à une tâche ou un job,
on peut
paralléliser. Et donc là, on va arriver à 2 minutes de traitement au lieu de 10. Sur un 4 cœurs, à 1 minute 05 toujours pour le même fichier, le même travail, les mêmes conditions sur un 8 cœurs, et à 38 secondes sur un 16 cœurs. Donc là, on a une vraie capacité de paralysation.
Donc pour un fichier de 3 minutes,
38 secondes,
3 minutes 40.
Joli. Donc en gros, vous découpez le fichier, vous traitez sur 4 cœurs en parallèle, comment vous faites pour ma culture G?
Alors, en fin de compte, un fichier vidéo, par exemple de 3 minutes, va représenter plusieurs formats d'encodage.
Oui, tout à fait. Donc, ah oui, donc en gros, vous dissociez les formats d'encodage sur les différents cœurs.
Sur les différents cœurs, exactement. Et on est capable de mettre plusieurs cœurs de calcul, d'associer plusieurs cœurs de calcul à une tâche, par exemple sur FFmpeg.
Super, bravo.
Voilà, donc ça, c'est plutôt. Nous sommes très contents de ces nouveaux résultats. Et voilà, on voulait le partager un petit peu avec nos amis sur Internet.
Bah, merci beaucoup. Merci encore. Et puis, bah, je pense qu'on va, clore cette session de Back from Build. Et à bientôt.
Et à très bientôt. Merci.